Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de cadrer un petit peu tout ce qui vient d'être dit juste avant moi, la grande perspective des traités, des illustrations, des documents, et en me concentrant sur un passage que je trouve très important et que je formule en tant qu'hypothèse entre l'Italie renaissante et puis l'après en France. À mon avis, il s'agit vraiment d'un décalage entre les deux cultures et entre deux époques très importantes en Europe. Donc il y a ce qu'on appelle en anglais un shift of paradigm, donc il y a un autre paradigme qui naît dans le même milieu du cheval et de la théorie en Europe. Et donc mon but c'est de montrer cela aujourd'hui en forme de hypothèse. Et en plus de m'inscrire, comme vous voyez, dans l'intitulé du colloque, ce passage que moi j'ai envie de constater me fait penser, et je crois que j'ai raison, il s'agit aussi d'un passage d'un imaginaire universel, avec des données typiques de l'humanisme, le grand centre du cosmos, vers un enjeu qu'aujourd'hui on appelle prospectif, mais qui à l'époque, évidemment, n'a pas ce nom-là, mais ça revient un peu à la même chose. Donc on devient concret, on devient actuel, on a envie d'utiliser les universels pour un but précis d'actualité et de recadrage de la société. Je vous donne la liste des traités en Italie et avec quelques excursus vers le monde anglo-saxon. Le premier, donc, c'est pas en Italie, mais c'est Portugal. Le Don Duarte, c'est le livre en portugais, qui est un manuscrit posthume, qui parle justement du cheval comme moment de méditation. Ça, c'est déjà très, très intéressant. Tout de suite, en Europe, un des premiers modèles est un anti-modèle ou un modèle qui ne va pas être suivi. Ça aussi, c'est une de mes lignes de recherche à Groningue et à Utrecht. Souvent, j'ai constaté les premiers modèles dans la peinture, dans l'architecture, dans l'urbanisme, en Europe, c'est souvent un anti-modèle. C'est le contraire de ce qui va suivre. Pourtant, on le reprend comme modèle. Ça, c'est très intéressant. Donc, la méditation, à mon sens, n'est pas très, très développée tout de suite en Italie après. C'est plutôt le technologique, etc. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé déjà de l'école de Naples. Alors, le grand manuel de Frédéric Grisone, Gli Ordini di Cavalcare. Donc, c'est vraiment une école d'art équestre. Et ce que je veux souligner dans mon exposé aujourd'hui, c'est le côté livre et illustration. Donc, l'illustration, le document dans le livre. Et vous allez voir tout de suite, 24 éditions au XVIe siècle, c'est énorme. Et plusieurs traductions françaises. Enfin, c'est pas énorme, c'est beaucoup. Et mon idée, c'est que justement, le côté illustration convainc beaucoup le public. Donc, on a parlé hier de cette attirance, de cette attraction, de cette séduction. Donc, le côté séduction se trouve dans l'histoire du livre à la Renaissance et notamment dans les tentatives de représenter le cheval en mouvement. Donc hier aussi, donc je fais des contacts avec hier, c'est la dynamique, le mouvement. C'est pas le cheval comme on vient de voir en statue équestre, mais le cheval qui bouge. Et là, tout va bloquer parce que c'est évidemment très difficile de dessiner, de montrer, de peindre, etc. dans un manuel, quelque chose qui bouge. Voilà. Donc ça, c'est un peu le concentré de ce que je veux dire. Donc je veux me concentrer aussi sur le Cesare Fiaschi, César Fiaschi, qui est aussi très vite traduit en français, en plusieurs éditions, et avec quelques variations autour de l'illustration aussi. Voilà, donc 1556, Trattato dell'imbrigliare, atteggiare e ferrare, donc ces trois sous-disciplines, embrider, manier et ferrer les chevaux. Il y a un petit excursus anglais, mais souvent c'est d'origine ou d'inspiration encore italienne et française un petit peu. Là, il y a l'école de Naples qui vient Pignatelli, mais là on suppose, mais on n'a pas trouvé ce manuscrit, mais on a retrouvé un titre qui s'approche d'un manuel, Bellissimi segreti dei cavalli, donc là aussi le secret, les plus beaux, les magnifiques secrets des chevaux. Mais c'est un texte qu'on n'a pas retrouvé. Il est important de savoir que le Fiaschi dont je vais parler aujourd'hui donne les idées ensuite aussi bien à Pignatelli qu'à Corte, Caracciolo et ensuite. Donc c'est ça un petit peu le fondateur de cette idéologie autour du cheval. Voilà l'héritage, et c'est là la coupure que moi je vois. Hein, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord, mais je vais essayer de le prouver. Donc une fois en France, on change de système en fait, de système d'idées, de concept. en utilisant la même base, mais on va actualiser, on va le mettre dans une autre perspective, dans une autre idée pour le futur de la société, d'où le contact avec notre colloque, justement. Je veux vraiment me concentrer aujourd'hui sur la beauté du texte autour du cheval, parce que ça devient une espèce de marchandise, pour le dire de façon négative un petit peu aujourd'hui, mais c'est un produit que tout le monde veut avoir. Et c'est un objet mystérieux, parce que dans ce genre de texte, il y a ces fameuses illustrations qui sont surprenantes. Alors, quel est mon point de vue central et l'unique, en fait, aujourd'hui? C'est une grande hypothèse que je vais lancer. Donc, il y a à l'intérieur de ces textes, en Italie, une espèce de situation conflictuelle entre le texte suivi et l'illustration. Et en fait, à bien réfléchir, il ne s'agit pas d'illustration, il s'agit d'une façon de noter le cheval. Et ça, c'est intéressant. C'est une des premières fois en Europe où on a envie de décrire quelque chose qui, en fait, il faut vivre en direct. Et donc, c'est une grande difficulté parce que c'est pour l'époque, évidemment, on a l'impression, il y a l'édition, mais en fait, mettre sur papier un cheval qui court et en plusieurs phases pour montrer comment il marche, comment il faut le faire marcher, c'est pas évident du tout. Donc il y a une espèce de situation de conflit, et ça c'est intéressant. Souvent la Renaissance, ça montre les grands modèles, mais sous-jacent, il y a quand même un petit peu de conflit. Donc c'est un conflit entre technologique et anthropologique. Deux grands mots, hein, l'anthropologique, l'homme et sa grande destination, la Renaissance. Et là, de façon sous-jacente, se glisse une page technologique. Et ça, c'est très intéressant d'observer. Donc il y a un paradoxe, en fait. Donc à la fin de la Renaissance, donc après 2 siècles de grandes pensées sur l'homme, sa destinée, l'équilibre, etc., l'humanisme, on constate qu'il faut aussi se concentrer sur le technologique, en fait. C'était déjà un petit peu le cas avec Léonard de Vinci, mais comme vous savez, il n'a jamais publié de grands textes. Là, il s'agit de publication, c'est ça mon point d'intérêt. Au niveau donc de la publication, après une grande phase de maturité, il y a une phase d'hésitation, et c'est ça qui m'intéresse. La Renaissance aboutit sur une espèce, je ne dis pas échec, mais demi-échec à représenter le mouvement, le continu, la vie, en fait. Donc l'humanisme et la Renaissance parlent tout le temps de la vie, mais représenter la vie en mouvement, ça, on a du mal. Donc il y a une hésitation qui va donner naissance au baroque, justement. Je crois que le baroque, c'est le mouvement artistique qui ressort de ce paradoxe, en fait. Donc moi, je vois entre les années 30-40, le grand équilibre en Italie, un paradoxe avec la phase d'après, les années voilà, où le cheval arrive dans ces textes et montre effectivement une des grosses difficultés de la Renaissance. Comment représenter le mouvement? Voilà, et ça se voit donc, et ça vaut surtout pour les nouveaux savoirs. Voilà un point de vue aussi important. Il y a toutes sortes de nouvelles disciplines de l'homme, de nouveaux savoirs, encore peu codifiés, qu'on veut codifier. Tout à l'heure, on a dit manuel. Je suis un peu hésitant pour appeler ça tout de suite manuel, parce que je vais montrer que ce n'est pas que manuel. Ce n'est pas faites ça, faites ça, faites ça. C'est dans une figure globale de prospective de l'homme, en fait, dans laquelle il y a une couche technologique. Ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement faites ça, faites ça, faites ça, règle, règle, règle. Non, c'est une vision cosmologique où, par défaut, et de façon pas du tout achevée, il y a un côté technologique. Donc, c'est très, très, un objet esthétique très intéressant à observer. Donc, ma thèse, c'est donc cette phase d'hésitation, d'inachevé aussi. Et rappelez-vous, effectivement, Michel-Ange, en fin de vie aussi, il a 80 ans passés déjà, est un peu l'emblème de ce côté inachevé de la Renaissance. Donc, les dernières statues de Michel-Ange sont inachevées, évoluent comme telles, hein, c'est pas parce qu'il s'est arrêté. Il n'est pas allé se coucher, c'est parce que l'inachevé était le moment de l'esthétique de la fin de la Renaissance. Et donc, je vois ça un petit peu dans ces traités aussi. C'est très intéressant. Parce que ça permet des possibilités de recherche et de développement et de renouveau. Donc, comment noter ce qui est mobile? Ça, c'est vraiment l'enjeu de ce genre de texte. Et donc, moi, je vois deux partie dans ce genre de texte, de document, de traité, la façon de noter le cheval, et autour, il y a le descriptif et surtout la préface où on reprend la vieille tradition de la Renaissance de parler du cosmos, de l'équilibre. Donc ça y est toujours, c'est toujours présent, mais c'est un peu catapulté vers les marges. Donc c'est très intéressant dans l'histoire du livre, comme quelque chose qui était le grand thème de la Renaissance, dans des documents qui parlent de chevaux, et donc de quelque chose de très réel, migrent en migration vers les marges, vers les préfaces, etc. Donc on rattrape le contexte universaliste de la Renaissance, et on en parle toujours, mais c'est dans des textes autour du cheval. Ça, c'est très intéressant. Donc on peut aussi ne pas les lire, en fait. Voilà, et là, dans ces documents au lecteur, et les textes de Fiaschi est dédié, je vais vous montrer, ça, voilà, et all'invitissimo e cristianissimo Enrico II, donc dédicace dédiée à Henri II de France. Et là, c'est un grand document qui fait vraiment le grand thème de la Renaissance. Ça parle du vertu, équilibre, macrocosme, microcosme, et c'est ça le lien avec notre colloque. Ce sont les grands thèmes universalistes. Et ça, c'est très intéressant. Ça reste, mais ça devient marge dans lequel on fait projection de quelque chose de très concret. Donc les grandes figures, les grandes valeurs éthiques, etc., sont là, mais dans une autre forme par rapport à la tradition précédente. Donc vertu, équilibre, mesure, rythme, juste proportion. On va voir justement que ces textes justement dédiés aux chevaux reprennent le thème de la mesure, de la juste proportion, du rythme, cadence, et ça devient musique. Donc on musicalise les universels. C'est une phrase un peu difficile à comprendre peut-être, mais les universels qu'on a dans la tradition sont ici musicalisés pour une raison technologique. Ça, c'est très intéressant. Donc, les valeurs dont je parlais, c'est évidemment le ciel, l'homme. Là aussi, l'universel homme-ciel bascule un petit peu et ça devient miroir homme-cheval. Donc, ce qui existe comme universel, comme catégorie universelle humaniste, est un peu déplacé et devenu plus concret. Ça devient une pratique. Comment est-ce que l'homme marche avec ce cheval ? Donc c'est là le grand changement que je vois qui est vraiment intéressant pour la culture européenne. Donc ce n'est plus la grande méditation, l'homme est devant le ciel, mais c'est une pratique. Comment est-ce que toi, homme, tu vas marcher avec ton cheval à côté de toi ? Donc c'est le concept de l'actualité. Dans pas mal de textes, on trouve aussi que c'est au dos de cheval que l'on exerce la loyauté vis-à-vis du prince. Donc ça devient une pratique qu'on peut vérifier, qu'on peut corriger, etc. Et si on regarde bien ce genre de conflit dont je parle, que je constate dans le cas des traités sur les chevaux, on trouve d'autres domaines à la fin de la Renaissance où on constate le même effort de noter la vie et de noter le mouvement et de noter la projection, le projectuel. Par exemple, dans le domaine de la mise en scène, déjà. Souvent, c'est la culture juive qui s'en occupe. Là aussi, je n'ai pas encore développé cet aspect. Vous avez aussi Salomon de la Broue, à mon avis, c'est aussi d'origine juive. En Italie, souvent, ce qui est très professionnel et technologie de la profession est exprimé et mis en texte par des traditions juives. Ça, c'est très intéressant. Donc, le premier grand texte en Italie et donc en Europe sur la mise en scène, pas le théâtre, hein, pas le théâtre parlé, mais la mise en scène, faites ça, c'est Leone Ebreo de Sommi, qui, en forme de dialogue, donne un abrégé de comment adapter un texte à la scène. C'est la première fois en Europe. Et c'est un demi-échec aussi, parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a des photos. Même pour aujourd'hui, c'est difficile de capter une mise en scène, parce que c'est lié à l'événement, c'est lié à l'unique. Et donc là, on voit déjà à la Renaissance, à la fin de la Renaissance, cette volonté de noter l'unique, mais ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais on le fait quand même. Donc c'est cette tentative qui est le lien direct avec le colloque, comme on a vu hier. Hein. On essaye de le faire marcher, de faire marcher une idée qui est universaliste, en le mettant dans un contexte de test case. D'où mon idée, pas une idée, je crois que c'est une conviction, que ça prend naissance à la fin de la Renaissance. Parce que là, on voit que ces grandes données universalistes, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? La même chose pour la codification de la danse, on trouve les mêmes choses. Donc l'homme qui danse avec l'homme, pas avec le cheval, l'homme, le cheval et la danse, 5 grands traités de la fin de la Renaissance aussi, début baroque, où ce ne sont pas des manuels non plus, hein, ce sont des idées, des réflexions, des idéologies autour de comment, quelle est la fonction de la danse comme cosmos et comment faire des pas. Donc c'est deux choses qui ne sont pas très faciles à combiner. La grande tradition de l'humanisme et de la Renaissance, je l'ai laissée en italien, parce que c'est quand même une très belle langue. Nell'arte della milizia non è disciplina di maggior bellezza di questa dei cavalli. Donc la beauté, ça c'est le principe universaliste. Et puis on va continuer, c'est la beauté de la beauté. Mais la beauté va être actualisée. Un peu comme hier, hein, comme a dit très bien Olivier, tout le monde voit passer ce système pour ramasser les vers, etc. Mais en même temps, on y voit aussi la beauté. C'est très, très pratique et c'est même très fonctionnel. C'est le point sur lequel Olivier a vraiment insisté. Mais derrière, il y a aussi la beauté. Alors, s'il n'y avait pas la beauté derrière, peut-être qu'il y aurait une autre appréciation. Voilà, Fiaschi donc invente pas mal de choses, et là c'est un des points intéressants pour la recherche. Il dit trois choses, non solo dar norma, je veux donner des normes, ma porre anche in disegno, je veux dessiner, mettre en dessin, mettre sur papier, construire comme idée, alcuni atti di cavalieri a cavallo, e ferri d'esso, aussi le matériel, et il tempo in musica d'alcuni maneggi. Donc, aussi la musique, le tempo, la cadence, et pour lui, c'est le côté concret du mouvement du cheval, c'est une danse. Et là aussi, c'est parce que, de façon avec le néoplatonisme, c'est relier explicitement cette nouvelle technologie à quelque chose d'universaliste. C'est ça mon point de vue. Je crois que c'est exactement le succès aussi de ce genre de traité. Alors que ce n'est pas du tout un succès comme manuel, mais c'est un succès comme universalisme concrétisé. Mon point de vue aujourd'hui, c'est donc la constatation d'un demi-échec, d'une grosse difficulté, donc noter le vivant, noter le mouvement, noter la vie concrète, et réserver tout ce qui est universaliste dans les marges. Ce qui ouvre l'espace pour des inventions, un peu comme hier, donc, ça permet de penser, c'était la phrase hier du départ de notre colloque, le cheval tout de suite fait réfléchir. Et là aussi, c'est le cheval bien sûr dans ces traités, comme on catapulte l'universel dans un petit schéma de préface, on a tout le livre pour faire ce qu'on veut. Et ça c'est très intéressant, pour donc faire de la créativité, de la inventio, typiquement de la fin de la Renaissance. Et donc là, chez Fiaschi, c'est ces petits dessins où le cheval fait des mouvements, une espèce de danse. C'est un mouvement pour éduquer le cheval. Hein. Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas du tout le triomphe de l'homme sur son cheval qui fait un jeu équestre. Etc. Non, là c'est un entraînement du cheval selon des lignes de circuits, des manèges. Manège, ça veut dire aussi porter à la main, hein, la main qui guide. Donc c'est un thème très concret. Voilà, donc c'est très, en plus, c'est très belles images, c'est pas une illustration, c'est une notation. Comme après, la musique, la danse va être notée. Et donc, ce genre de livre a été vendu pas mal à cause justement de ce côté bizarre, un peu mystérieux, justement, de ce genre de notation. Comme c'est très difficile de noter le cheval qui bouge, ou bien il faut faire, comme après dans le futurisme, hein, plusieurs images qui se suivent. Là, c'est le cheval qui bouge, mais son mouvement, c'est en bas. C'est son mouvement de trot, tac, 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 tac. Donc le trot, donc, est visualisé. Voilà, donc on trouve chez Fiaschi cet énorme effort de lancer une nouvelle piste de recherche, en fait, aussi, dans le domaine du livre, de représenter quelque chose qui est actuel. En plus, il lit ça à la volonté de compréhension de comprendre le cheval. Donc, c'est un texte qui donc, comme j'ai dit, ouvre beaucoup d'espace à quelque chose qui n'a pas été écrit encore dans l'humanisme, parce que c'est une espèce de page blanche, carte blanche au sens strict du terme, où il note tout ce qui est spontané dans le monde virtuel, en fait. C'est très moderne, hein. Il dit il faut comprendre le cheval. Donc, c'est un des premiers textes, ensemble avec Glison et Glison, où on dit c'est à l'homme aussi de comprendre le cheval, parce que pour atteindre l'équilibre, à nouveau cet universalisme, il faut comprendre le cheval, il faut comprendre les signes. C'est une espèce de sémiotique, comme on disait à l'époque, de ce cheval. Et comme on l'a vu tout à l'heure aussi, il faut comprendre son tempérament. Et là, on utilise à nouveau la théorie des couleurs, la théorie de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, etc. Donc on lit quelque chose, une question très actuelle à un universel. Donc le caractère du cheval est une recherche à faire. Donc c'est lui qui invente donc le grand intérêt pour le caractère du cheval, la nature du cheval. Et une troisième dimension qu'il ajoute dans cette page inventive, en fait, hein, de tout le livre, c'est qu'il parle aussi de guérir le cheval, parce qu'il dit, et ça c'est très intéressant, c'est pour ça que c'est pas qu'un manuel, c'est aussi un livre qui dit, avant c'était pas bien, avant on a fait des fautes, avant on a fait des choses pas toujours très bien avec le cheval, il faut qu'on corrige. Donc c'est un livre de correction, c'est un principe correctif, contre l'usage. Et là aussi, il y a vraiment une rupture, un peu une thérapie. Donc, à la fin de ce livre, il y a toute une liste de maladies du cheval, le genou, etc., maltraité. Donc, c'est très biologique aujourd'hui, très ouverture d'esprit vers quelque chose de nouveau, à cause de cette page blanche, je crois. Parce qu'avant, il fallait toujours parler de l'univers, du cosmos, du soleil, et il n'y avait plus d'espace pour ce genre de nouveau débat. Donc là, il y a de l'espace. Je veux vraiment dire aujourd'hui que, à mon avis, c'est un demi-échec, hein, parce que souvent, la Renaissance est toujours glorifiée. Là, ce sont des très beaux livres, mais qui n'aboutissent pas à leur objectif, en fait, parce qu'on ne peut pas noter le cheval. Donc, c'est très bizarre, c'est beau à voir, c'est un peu exotique, mais c'est un peu raté, en fait. Donc, le paradigme change après, une fois que cette pratique va entrer en France, et c'est ça aussi important pour notre point de vue du colloque. Tout ce qui était universel en Italie va encore devenir encore plus concret et actualisé en France, avec les traités que je vous ai indiqués. Donc le particulier arrive, avec Pluvinel, mais aussi avec Delabroux. C'est vraiment une vocation de redonner un nouveau souffle aux images du passé. On retrouve la même tradition, hein, mais c'est dans un autre cadre, un autre cadrage. Et j'y vois deux points. Donc, c'est actualisé et centralisé. C'est un peu des concepts que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, ce qui est universel, bien sûr, l'homme, le cosmos, la beauté, comme on a vu, la bellezza, devient ici, oui, mais la bellezza, ça dit qui? De qui? Évidemment, c'est le roi. Mais on le sait. Mais il s'agit quand même d'un grand passage. J'ai l'impression que souvent on passe tout de suite en France et puis en Europe, mais à mon avis, il y a un vrai clivage, une rupture, parce qu'il y a une rupture entre l'universaliste et le concrétisé, incarné par le roi. Donc cet universel sera incarné par le roi. Donc ce n'est pas une continuité sans faille, sans faute. On voit aussi, c'est intéressant aussi pour nos étudiants, hein, à la même époque, on trouve en France un renouveau d'intérêt pour la littérature chevaleresque. Il y a un boom, un boost de Tasse et Ariost, justement parce qu'on voit que les universels sont encore intéressants. Donc on veut instaurer le roi comme nouvelle autorité, contact avec Dieu, bien sûr, mais on veut avoir accès à cet énorme grenier de valeurs universelles aussi. Dans la littérature, donc, on récupère le passé. Et donc, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'on a envie de lire, mais à mon avis, c'est parce qu'on a envie de comprendre le passage vers le concret. Donc, le roi devient l'incarnation de cette valeur universelle, le rapport avec Dieu. Pas que le roi, d'ailleurs, en France, mais aussi la nation, bien sûr, toujours présent actuellement en France, mais c'est tellement accepté et évident qu'on n'y pense plus, mais c'est un passage. C'était pas évident. C'est vraiment une évolution du paradigme. Donc, nation, évidemment, la langue aussi. Là, en Italie, il y avait plusieurs langues. Il y avait des dialectes. avec la France, c'est la langue, donc c'est centralisé. Donc l'universalisme est centralisé. Ce qui est intéressant aussi, tout à l'heure on a parlé de ces carousels, et ça a un peu le même principe, ce qui était généralisant, c'est-à-dire le mouvement du cosmos, le mouvement des étoiles, devient un sous-genre, devient quelque chose de très concret, de quelque chose, un aspect seulement, un spectacle. Donc là aussi, il faut vraiment insister, parce que le carousel, c'est important, mais ça cadre, à mon avis, dans ce passage vers autre chose. Donc ce qui était universel devient un sous-genre. Il y a plusieurs sortes d'attractions, de spectacles avec des chevaux. Et le carousel, le combat équestre, le combat à cheval en forme de balai, n'est que seul, alors qu'avant, c'était tout. Donc j'ai voulu noter pour vous, démontrer pour vous donc, ce passage en Europe d'un paradigme à l'autre, qui peut être traduit aussi par un passage de l'universel vers l'intitulé de notre cours, donc le prospectif. Prospectif, c'est-à-dire diriger vers le futur, vers qu'est-ce qu'on va faire avec. Et on ne peut pas avoir le prospectif sans les valeurs universelles dont tout le monde est d'accord ou plus ou moins d'accord. La bellezza, les enfants qui regardent la beauté de la nature, l'éducation, on est d'accord là-dessus. Rares sont les occasions où on discute sur ce genre de poncif, de tradition qui est là dans notre société. Mais on l'adapte. Et du coup, quand on peut adapter, ça revient à un autre paradigme et ça ouvre de nouvelles perspectives, comme l'image du cheval en France après la tradition italienne. Donc on a dit hier aussi « resensibiliser l'homme ». En fait, dans ces traités, on dit qu'une autre sensibilité naît et qu'elle est transposée, traduite dans un autre domaine utile de la ville et de la cour. Donc la capacité de créativité est un effet de ce passage. Donc la créativité a lieu et elle donne naissance à des réflexions sur le futur, attestées. C'est ça le prospectif, hein. C'est pas du tout garanti, mais on teste des cartes, des pages intéressantes pour le futur en partant des valeurs éthiques indiscutables, qui sont des universelles. Donc je finis avec la beauté, hein, la beauté, la bellezza, ça qui était partout présente dans ces traités, en Italie surtout, hein. La beauté, oui, d'accord, mais comme on a vu hier, c'est aussi la beauté comme émotion, la beauté qui peut avoir aussi un petit peu peur. On a dit hier, oui, mais pas tout le monde. Il y a aussi des gens qui ont peur du cheval. Donc la beauté est aussi quelque chose d'appréhension. C'est pas tout de suite un enthousiasme, ça peut aussi un éblouissement. Donc là aussi, donc c'est une catégorie universelle qui est adaptable, qui est modifiable. Et c'est ça, à mon avis. Le tracé qu'on veut suivre ici. La même chose pour la beauté, oui, la beauté, mais c'est une beauté dans la ville, la beauté de la pacification de la ville de Trouville. Donc c'est une nouvelle beauté d'aujourd'hui dont on avait besoin, mais qui prend sa naissance dans un procédé universel. Voilà, je vous remercie.